Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous nous intéressons aux technologies du nucléaire appliquées à l'alimentation avec Alain Strasser, économiste spécialiste des techniques nucléaires d'ionisation dans l'agroalimentaire. Alain Strasser a participé à la conférence internationale organisée en novembre par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur les contribution des techniques nucléaires à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments. Alain Strasser explique les avancées du nucléaire dans la conservation des aliments au micro de Priscilla Lecomte. Bonne écoute.
Quand on parle d'ionisation des aliments, on est là en face d'un procédé qui consiste à exposer l'aliment à du rayonnement. Alors, ce sont soit des rayonnements électromagnétiques du type gamma ou X, ou des faisceaux d'électrons, et on soumet cet aliment à un rayonnement. Et donc, l'effet que l'on recherche, c'est la réduction de la population bactérienne dans cet aliment, donc soit des bactéries pathogènes, donc on va rendre l'aliment plus sûr vis-à-vis de ces bactéries pathogènes, ou alors on peut réduire la flore bactérienne d'altération, ce qui va avoir une influence sur sa durée de conservation. Donc ça c'est la partie ionisation des aliments.
Ça veut dire qu'on peut jouer sur des bactéries du type Escherichia coli ou Salmonelle ou Listeria.
On peut les... Exactement. Quand je parle de bactéries pathogènes, c'est ce type de bactéries-là. Hein. C'est Listeria, Salmonelle, Campylobacter, E-coli, etc. Ça, c'est pathogène. Après, vous avez des flores d'altération qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, mais qui vont altérer le produit. Là aussi, vous allez avoir une action de ce rayonnement sur ces flores d'altération qui va permettre de conserver l'aliment plus longtemps.
Donc concrètement, nos fraises qui sont dans notre frigo, elles vont pouvoir rester belles pendant un mois.
Là, vous allez vite, ça dépend. Alors bon, on cite toujours l'application sur les fraises, mais je suis pas sûr que ce soit très utilisé.
Alors, c'est la question que je me posais. Aujourd'hui, est-ce que ces techniques sont utilisées dans l'industrie agroalimentaire? Vous travaillez dans un centre de recherche appliquée. Ouais. Est-ce que ces techniques dont on parle au cours de ce forum, elles sont largement répandues ou elles commencent à être répandues?
Alors, les situations ne sont pas pareilles dans les différentes parties du monde. Et les besoins ne sont pas pareils dans les différentes parties du monde. Quand vous avez une grosse différence entre l'Europe, le continent américain et le continent asiatique. En fait, en Europe, les quantités de produits ionisés que vous trouvez sur le marché sont en décroissance.
Sont en décroissance, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus?
De moins en moins. Alors, en Europe, le volume de produits alimentaires traités par ces techniques-là, par les techniques d'ionisation, sont en chute. Sur le continent américain, notamment pour des besoins de traitement phytosanitaire, etc., vous avez des applications classiques. Et sur le continent asiatique, et notamment en Chine, on sait qu'il y a de plus en plus d'irradiateurs. Donc, à mon avis, c'est utilisé sur les produits alimentaires.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'en Europe, c'est moins utilisé? Est-ce que c'est une crainte du consommateur par rapport à ces techniques?
Alors, écoutez, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les volumes diminuent. Et ces volumes diminuent depuis, l'application d'une législation européenne qui est très, très, très contraignante sur cette technologie-là, puisque la législation européenne impose évidemment un étiquetage de ces produits qui ont subi un traitement ionisant, ce qui est normal, puisque le consommateur doit s'être informé. Là où la législation européenne va très loin, c'est qu'elle impose l'étiquetage des produits finis, même s'ils contiennent un fifrelin d'ingrédients ionisés. Donc voilà, on est là dans une situation où finalement l'industrie agroalimentaire en Europe ne veut pas étiqueter ses produits, ne veut donc pas utiliser d'épices et ingrédients ionisés sur leurs produits finis. Et donc vous allez avoir tout le marché des épices et ingrédients, même si ce sont des produits autorisés au traitement. La législation européenne autorise évidemment les épices et ingrédients au traitement ionisant, mais vous allez avoir une chute des volumes.
Pourquoi l'industrie agroalimentaire a-t-elle peur d'étiqueter les aliments? Est-ce que c'est parce que ça suscite des craintes de la part des consommateurs?
Oui, probablement. Alors, je ne sais pas si c'est les distributeurs qui ne veulent pas avoir ça dans leur rayon, de peur que le consommateur puisse avoir une réaction négative vis-à-vis de ça. C'est assez compliqué. Moi, je pense que le consommateur bien informé, je ne vois pas pourquoi il aurait des craintes, mais en fait, tout le monde a peur que finalement le produit ne se vende pas parce qu'il y a ce label traité par rayonnement ionisant, cet étiquetage dessus, quoi.
Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les craintes que peuvent susciter ces techniques de rayonnement ionisant ? Est-ce qu'il y a des effets possibles sur la santé ? Est-ce que ces traitements sont sûrs ? Est-ce que c'est vraiment sans aucun danger pour le consommateur ?
Oui, c'est sans aucun danger. En fait, il y a eu des études. C'est certainement la technologie, on va dire, le process alimentaire qui a fait l'objet du plus de recherche au niveau international au monde. Hein. Donc, justement, l'AIEA et la FAO ont conclu à l'innocuité de ce traitement. C'est quoi ? C'est l'image, en fait. On utilise du rayonnement. Souvent, les gens confondent traitement par rayonnement ionisant et radioactivité. Donc, voilà, on est sur du fantasme.
Alors que voilà. vous nous le confirmez, ce type de ionisation n'a aucun effet sur l'aliment, si ce n'est supprimer les micro-organismes qui peuvent l'altérer.
Bien. Alors attendez, tout process n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il faut faire le traitement correctement. Évidemment, il peut y avoir des problèmes organoleptiques, c'est-à-dire sensoriels, vous voyez, hein, on peut, à un moment donné, si on augmente la dose de rayonnement, avoir des problèmes d'oxydation, de lipides et ce genre de choses qui peuvent induire des problèmes organoleptiques dans le produit.
C'est-à-dire
De goût, de mauvais goût, de mauvaises odeurs. Mais ça ne rend pas le produit toxique, mais tout simplement impropre à la vente. Donc, il faut, si vous voulez, que le traitement ionisant soit réalisé dans de bonnes conditions. Il faut qu'il soit adapté à ce que le produit supporte. C'est-à-dire qu'il faut que la dose que vous allez mettre, la quantité de rayonnement que vous envoyez sur le produit soit suffisamment efficace pour obtenir l'effet recherché. Exemple, la destruction de salmonelle dans le produit. Mais il faut évidemment pas que cette quantité de rayonnement puisse induire un quelconque effet négatif sur le produit.
Alors, ce qu'on peut se demander, c'est quelles sont les innovations qui apparaissent ? Est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives pour ces techniques nucléaires aujourd'hui, que ce soit en Europe ou dans les pays en voie de développement ?
Alors, écoutez, après, il y a tous les aspects de techniques analytiques, spectrométrie de masse, résonance magnétique nucléaire, etc., pour attester. Donc là, il y a pas mal de programmes de recherche pour attester de l'authenticité des aliments, etc. Donc, c'est de l'amélioration de techniques analytiques, donc d'analyse, qui vont pouvoir être appliquées sur des aliments pour détecter mieux des pesticides, etc., etc.
Alors, j'imagine
ça, c'est complètement autre chose.
Alors j'imagine que ces techniques-là, au contraire, elles sont en plein boom.
Absolument.
Alors pour conclure, peut-être donnez-nous un peu les perspectives d'avenir pour les techniques d'ionisation.
Alors sur les techniques d'ionisation, ce qui est intéressant, c'est que bon, je vous ai dit qu'on utilisait plusieurs types, je dirais, de façon d'irradier les produits. Hein. Donc, il y a les rayonnements électromagnétiques. Alors, une des techniques, c'est d'utiliser des sources radioactives de cobalt-60 qui vont émettre un rayonnement. Et c'est ce rayonnement, disons, c'est devant ce rayonnement qu'on va soumettre les aliments. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a probablement des très gros progrès qui ont été faits dans la façon de générer ces rayonnements. Donc on peut générer ces rayonnements avec des machines électriques, qu'on appelle des accélérateurs d'électrons. Alors ça, c'est assez ancien. Hein. D'ailleurs, ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que en fait, ces technologies d'irradiation, on les utilise très largement dans d'autres secteurs industriels. Hein.
Comme on par exemple
Alors, pour de la stérilisation de produits médicaux, d'implants, des prothèses de genoux ou de matériel médical à usage unique, ce genre de choses. Vous voyez, c'est très 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 largement utilisé. Hein. D'ailleurs, les grosses applications industrielles des rayonnements ionisants, c'est pas dans l'aliment. Hein. C'est sur la stérilisation de produits médicaux ou dans la modification de matières plastiques, ce genre de choses, hein, des matériaux au sens large.
D'accord. Alors que, voilà. Mais ce sont des techniques qui sont anciennes aussi bien dans le domaine sanitaire que dans le domaine alimentaire finalement.
Exactement. Alors, je dirais que là, la tendance, puisqu'il y a deux manières de générer ces rayonnements dans l'industrie, c'est d'utiliser des sources radioactives, soit d'utiliser des machines électriques. Je dirais qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même, et il y a eu des améliorations, dans les dernières décennies, de machines qui sont sorties, des accélérateurs d'électrons fiables, avec des puissances qui vont bien, pour générer ces rayonnements, non plus avec des sources radioactives, mais avec des machines électriques. Donc ça présente quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, vous ne manipulez pas de sources radioactives. Quand vous éteignez la machine, ben, il n'y a plus de rayonnement. Et donc, la tendance, on va dire, pour les techniques d'irradiation industrielle, c'est quand même d'utiliser des accélérateurs d'électrons. Donc, soit directement en exposant les produits avec des faisceaux d'électrons, ou en transformant ces électrons en rayonnement électromagnétique à la sortie de la ligne de faisceau. Quoi.
Ce qui est moins nocif peut-être à long terme pour l'environnement.
Si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on n'utilise plus de sources radioactives pour générer le rayonnement.
D'accord.
Mais même avec du rayonnement gamma issu de sources radioactives de cobalt 60, il n'y a pas de problème de toxicité ni quoi. Le traitement l'innocuité des traitements n'est pas remise en cause par le fait d'utiliser des sources radioactives qui génèrent le rayonnement. On est bien d'accord.
D'accord, oui, j'ai bien compris ça. Après, c'est sur les machines qui sont peut-être plus.
C'est sur la façon de générer le rayonnement. Où là, il y a eu des grosses améliorations ces dernières années. Et je pense que la tendance d'avenir, ce sera quand même plus des machines électriques que d'utiliser des grosses sources des sources radioactives, quoi, c'est clair.
Et est-ce que la tendance est à développer ce genre de technique dans les pays en développement, par exemple, ou d'autres marchés dans le monde?
Ben écoutez, les pays en voie de développement, aujourd'hui, sont aidés par l'AIEA pour étudier ces techniques, ce procédé d'irradiation. Alors, il y a des pays en voie de développement qui installent des accélérateurs d'électrons, il y a des pays en voie de développement qui installent encore des petites sources cobalt pour faire les essais sur leurs produits. Donc, je dirais que la tendance que je vous annonce là, elle est peut-être pas encore aussi nette dans les pays en voie de développement.
D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous voulez revenir, peut-être, qu'on n'a pas déjà évoqué ?
Oui, enfin, ce qui est important, c'est que sur la partie rayonnement ionisant, ce qui est important, c'est souvent quand on parle de rayonnement ionisant ou de traitement ionisant d'aliments, on pense que c'est magique, etc., etc. Donc moi, je voudrais vraiment insister que c'est une technologie éprouvée dans d'autres secteurs industriels, mais très largement, hein, et que le problème, notamment en Europe, d'acceptation de cette technologie sur l'aliment, on ne l'a absolument pas quand on applique ces technologies-là sur des produits médicaux. Par exemple, tout le monde est très content d'avoir une prothèse de hanche stérilisée et on ne se pose pas vraiment la question comment elle est stérilisée. Et d'ailleurs, quand on parle de stérilisation par rayonnement avec un moyen physique, on est peut-être même plus rassuré que si on dit que bah, c'est de la stérilisation par voie chimique, vous voyez. Alors que sur l'aliment, c'est différent. Dès qu'on parle de bouffe, il y a des fantasmes. Et puis bon, c'est un acte quotidien et que chacun d'entre nous est un consommateur, c'est quelque chose de très particulier. La technologie et l'aliment, ça se résonne complètement différemment.
D'accord,
que dans d'autres secteurs.
Je vous remercie. C'est clair que c'est un sujet qui intéresse tout le monde parce que ça parle concrètement à une
Bien
activité
sûr.
Quotidienne, tout à fait. En tout cas, merci pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est avec le plaidoyer d'Alain Strasser sur les bienfaits de l'ionisation des aliments que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la contribution de Priscilla Lecomte et de Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal de la radio des Nations Unies sur Internet en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.